C'est les informations en direct de Radio Zinzine ainsi que sur la web radio BAM Radio en direct de Marseille. Et pour commencer ces informations, je voulais commencer par un coup de gueule. Un coup de gueule contre cette minorité qui se croit tout permis, qui nous prend en otage, qui nous empêche de bien vivre et qui nous les coupe, les vivres, qui n'hésite pas à faire preuve de violence, qui n'écoute rien et qui n'en fait qu'à sa tête, et qui dit et redit droit dans ses bottes, on ne lâche rien. Cette minorité, c'est cette minorité de dirigeants bien confort dans leur hémicycle, qui décident de la vie des autres dans ce qui ressemble à une cour de récréation, du gouvernement galvanisé à l'état d'urgence qui décrète ce qu'il veut quand il veut, de toute cette avant-garde d'économistes éclairés qui valorisent leur capital au Panama ou ailleurs, et de tout ce que subit cette majorité tous les jours. Emmanuel Macron, ce riche banquier acharné qui affirme sans sourciller prôner la modération salariale, ce qui veut dire on n'augmente pas les salaires mais les bénéfices des entreprises. Macron qui dit la meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler en s'adressant à un gréviste sur un lieu de blocage. À l'heure où le patron de Renault, Carlos Ghosn, touche 7,22 millions d'euros par an, ce qui représente 764 fois le SMIC. À l'heure où l'Assemblée nationale a rejeté cette semaine la limitation de salaire des patrons, à l'heure où débute le procès des 5 salariés d'Air France poursuivis pour violence en réunion pour une chemise arrachée au DRH d'Air France, à l'heure où des ouvriers de Goodyear prennent de la prison ferme pour avoir retenu leur patron quelques heures. Le journal Challenge titre « Loi travail, mobilisation en baisse ». Les Échos, « Loi travail, la mobilisation ne décolle pas ». Non, la mobilisation ne décolle pas quand il y a des milliers de gens dans la rue depuis près de 2 mois. Et le journal Le Point, qu'on pourrait d'ailleurs surnommer « Le Point dans ta face », qui se gausse d'un article « Loi travail, ceux qui cassent la France ». La CGT, bientôt ex-premier syndicat de France, démontre encore une fois de plus son inculture économique. Les rentiers de la haine sont à l'œuvre. Alors hier on parlait de cette minorité de migrants semi-sauvages qui viendraient piller la France, puis du jeune lycéen, du jeune étudiant qui descend dans la rue, surtout pour sécher les cours parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font, ces jeunes immatures. Puis on a eu droit à la minorité des casseurs, cette horde de dégénérés qui s'en prennent aux banques et aux vitrines des boîtes d'intérim. Aujourd'hui, ce sont les rentiers de la haine, ces incultes de syndicalistes qui ne représentent que quelques pourcents de la population. On avait presque oublié que derrière l'essence, les raffineries, les industries, il y avait des femmes et des hommes, cette minorité qui travaille tous les jours, qui permettent à quelques riches de continuer à s'enrichir, ces prolétaires. Ces prolétaires au premier sens du terme, ces gens qui détiennent les moyens de production, on les avait presque oubliés. Qui parlait encore de minorité hier, il y a un demi-siècle, lorsqu'une poignée de résistants prirent le maquis au péril de leur vie, contre le gouvernement de Pétain, ces terroristes qu'on disait, l'anti-France. Et qui parle aujourd'hui de majorité, quand le président de la République est élu au final par une petite minorité de Français? Alors elle a bon dos, la majorité silencieuse. On l'aime avachie dans son canapé devant l'Euro de foot. Du pain et des jeux, comme disait l'hôte. Et non, Radio Zinzine n'a pas pris sa carte à lutte ouvrière. Mais n'oublions pas que les classes sociales, ça existe encore. Et qu'aujourd'hui, on fait l'épreuve de leur lutte. Alors comme dit Manuel Valls, on lâche rien.
Yeah.
Après ce coup de gueule, on enchaîne tout de suite et sans transition avec la météo. Météo plutôt instable, hein, puisque 19 départements sont dits en vigilance orange avec des gros risques d'orage et notamment des risques de grêle et grêlon. Pour Marseille et ses environs, donc la région PACA, des températures entre 15 et 20 degrés entre les matinales et l'après-midi, avec des risques d'orage, puisque le quart sud-est pour l'instant était épargné, mais ça descend doucement. Les orages pour Marseille dans la matinée et dans les terres à peu près toute la journée, d'après Météo France, qui n'est pas forcément un site fiable. On continue avec l'agenda, donc l'agenda de la semaine, de l'ensemble de la semaine sur Marseille. Il y a toujours l'AG en lutte pour s'organiser autour de ce qui se passe et du mouvement social le dimanche à 15h sur la plaine, ainsi que le lundi à 19h au kiosque des Réformés. Mercredi 1er juin au 34 cours Julien dans le 6e arrondissement de Marseille, permanence de RESF, réseau d'éducation sans frontières, pour soutenir les jeunes et les familles sans papier. Mercredi toujours à 18h à Mille-Babord, local militant, il y a aussi une bibliothèque, c'est au 61 rue Consolat dans le 1er arrondissement, permanence assemblée des blessés 13. Et là, c'est l'occasion aux personnes qui ont été blessées lors des dernières manifestations de se regrouper, de discuter entre elles, de témoigner, ce qui est toujours un moment important, le témoignage quand on a vécu une forme de violence, et aussi de recueillir des témoignages en cas de procès pour pouvoir monter des dossiers juridiques. Toujours mercredi 1er juin à 19h30 à l'Équitable Café au 54 cours Julien, c'est Eux les chiens, film de Hicham Lasri en partenariat avec l'association Aflamme. Alors le film parle de Majoub et de son histoire, emprisonné en 1981 pendant les émeutes du pain au Maroc, puis il ressort 30 ans plus tard en plein printemps arabe. Une équipe de télévision publique qui réalise un reportage sur les mouvements sociaux au Maroc décide de le suivre dans la recherche de son passé. Ulysse moderne, Majoul, nous entraîne dans une traversée de Casablanca, dans une société marocaine prise entre tradition et modernité. Odyssée urbaine, cavalcade, effrénée, c'est Eux, les chiens, nous racontent comment un perdant magnifique tente de regagner sa place entre un passé contrarié et un présent difficile à décoder. Alors il faut savoir que ce film prend place aussi dans la semaine marocaine qui a lieu à l'Équitable Café et je vous invite à consulter le site internet de l'Équitable Café pour avoir plus de détails sur ce qui se trame autour de cette semaine. Samedi 4 juin à 17h à la Girafe. Alors la Girafe, cette sculpture de girafe qui est présente sur la Canebière à côté du kiosque à musique. Et il y a une Fada Pride. Alors qu'est-ce que la Fada Pride? Eh ben, c'est un défilé appelé par un collectif qui dénonce la maltraitance dans les lieux de soins et en particulier dans les hôpitaux psychiatriques et toute leur violence et qui demande plus de respect et plus de liberté. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite aussi à aller voir sur le site de Mille-Babord où leur tract avec leurs revendications est présent. Dernière chose, il y a plusieurs présentations de livres, il y en a 3 cette semaine à la librairie Transit. Alors pourquoi j'insiste un petit peu cette semaine sur ce lieu? C'est parce que c'est une librairie extrêmement intéressante, librairie à la fois de critique sociale, à la fois aussi de publications de livres et de magazines qu'on trouve très peu et qui ont trait au Maghreb, de maisons d'édition très rares, ainsi qu'une librairie tout à fait ordinaire où quand vous voulez trouver n'importe quel bouquin, vous allez là-bas, vous le commandez et il arrive sous quelques jours. Et en ce moment, la librairie Transit a de nombreux problèmes d'argent. Et Michel, l'autre jour, à une présentation d'un livre, nous l'expliquait et disait notamment que c'était lié au mouvement social parce qu'il y a pas mal de gens qui participent actuellement aux grèves qui ne peuvent pas se rendre dans sa librairie et donc il a beaucoup moins d'argent en ce moment. Donc n'hésitez pas à venir le soutenir, c'est au 45 boulevard de la Libération. Et donc la première présentation de livres qui a lieu à la librairie Transit, c'est ce 31 mai. Brûlez-moi, comme ça je peux chanter. Il s'appelle Samson, Sergiu, Mimi, Petrou, Darin, Vadanma, Sabina, Estera, Florica, Lena, Larissa, ils ont fui la misère en Roumanie pour poser leurs valises à Marseille. Ils ont squatté des immeubles voués à la démolition ou occupé des terrains vagues qu'ils ont transformés en bidonvilles, comme le firent avant eux les travailleurs maghrébins. C'est leur histoire qui est racontée dans ce livre à travers les photos de Kamar Idir, leurs témoignages et le film de Dominique Idir, La maison, le violon et le sac tati. C'est aussi le bras de fer entre les divers gouvernements plus prompts à les criminaliser qui appliquaient le droit au logement et le droit au travail, pourtant inscrit dans la Constitution. Donc je répète, le titre du livre c'est « Brûlez-moi, comme ça je peux chanter ». Deuxième présentation de livre, c'est le 3 juin, alors cette fois c'est au local solidaire 13-29 boulevard Longchamp, mais c'est toujours soutenu par la librairie Transit. Et c'est un livre de Grégory Chamba autour de l'école des réacs publicains. Ces réacs publicains, ce sont Natacha Polony, Jean-Paul Brighelli, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, etc. Il y en a tant d'autres, évoquant inlassablement l'effondrement du niveau scolaire et la décadence de l'institution, le redressement de l'école préfigurerait la restauration de l'ordre et de la nation. Et ils s'inscrivent en fait, ces penseurs, dans une tradition méconnue qu'on appelle la pédagogie noire, et donc qui est décortiquée par l'extrême et qui est une pédagogie bien sûr inspirée d'extrême droite. Dernière présentation de livre, ça s'appelle Grève et joie pure, c'est un texte de Simone Veil, la philosophe, début du XXe siècle, et c'est le 1er juin à 19h à la librairie Transit, une rencontre avec son auteur Charles Jacquier, et qui nous dit « En mai-juin 1936, une vague de grève spontanée éclate en France, juste après la victoire électorale du Front populaire. Elle atteint son apogée le 11 juin, avec près de 2 millions de grévistes dans la plupart des secteurs de l'industrie, mais aussi dans les bureaux et les grands magasins. La revue syndicaliste « La Révolution prolétarienne » publie alors, sous son pseudonyme, un article devenu célèbre de Simone Veil qui donne tout à la fois une description accablante de la condition ouvrière dans la métallurgie, le secteur le plus en point dans le conflit, et un éclairage inégalé sur la nature et le climat de ces grèves en soulignant leur caractère inédit, les occupations d'usines. Donc c'est un livre qui est carrément dans l'actualité et je vous invite à aller là-bas pour écouter cette présentation.
I'm a shooter.
continuer sur le mouvement social. Manuel Valls a reçu aujourd'hui l'industrie pétrolière à Matignon. Alors on apprend que 6 des 8 raffineries du pays étaient toujours à l'arrêt ou au ralenti vendredi, mais tous les dépôts pétroliers bloqués en France continentale par des opposants au projet de la loi travail ont été débloqués, à l'exception pour l'instant de celui de Garganville dans les Yvelines. On apprend aussi que les stocks sont en amélioration, donc il y a de moins en moins de pénurie d'essence. La grève a été reconduite pourtant jusqu'à lundi au terminal pétrolier du Havre qui alimente notamment les aéroports d'Orly et de Roissy en kérosène. Mais Air France nous dit pas d'inquiétude particulière à avoir pour les aéroports parisiens qui disposent de plus d'une semaine de stock. Donc Valls a reçu à Matignon en fin de matinée les dirigeants du secteur pétrolier, c'est-à-dire raffineurs, distributeurs, stockeurs et représentants du secteur des transports, avec en présence des ministres l'incontournable Manuel Macron, ministre de l'économie, ainsi que le chargé d'État au transport Alain Vidalis et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Manuel Valls a rappelé son intransigeance. Il a dit « Je n'ai pas un problème avec la CGT ni avec Philippe Martinez, mais la CGT demande le retrait du texte. Elle a fait le choix d'une stratégie très dure et de l'impasse. » Oui, enfin, je suis pas sûr que ce soit les CGT qui aient commencé. « Ce que je n'accepte pas, ce sont les blocages des ports, des raffineries, des dépôts qui portent atteinte à la libre circulation, gênent les salariés et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. » Et non, ce n'est pas une blague. « En général, les plus modestes qui pâtissent de cette situation, mais bien sûr, il n'y aura pas de retrait du texte, pas de retrait de l'article 2 qui vise à décentraliser le dialogue social parce que c'est le cœur même de cette loi. Et bien sûr, François Hollande a aussi réaffirmé son intransigeance. Il y a quand même un appel de 56 députés qui ont envoyé une lettre à François Hollande afin de reprendre le dialogue social avec les syndicats et pour trouver une sortie de crise. Mais pour l'instant, c'est lettre morte. Et petite information aussi, au passage, j'ai entendu ça dans les informations de France Culture, mais j'ai pas eu énormément plus d'informations à ce propos. Il y a un jeune de 18 ans qui aurait été blessé à Paris lors des manifestations ce jeudi, et son état ne sera toujours pas stable. Il aurait été blessé par une grenade de désencerclement, ce qui n'est pas sans nous rappeler ce qui était arrivé à Rémi Fraisse et qui était décédé suite à une mobilisation dans le Tarn. Sinon, pour revenir à Marseille et à ses alentours, donc cette semaine a été orchestrée par tout un tas de blocages de raffineries, notamment celle de Fos qui a été débloquée violemment mardi matin par les CRS à 4h du matin avec des canons à eau et des policiers plutôt violents. On a rencontré d'ailleurs pas mal de gens qui ont témoigné de cette violence-là. Il y aurait eu aussi des coupures d'électricité de plan de campagne. Donc plan de campagne, c'est ce grand centre commercial énorme à proche de Marseille. Il y a aussi tout un tas de chantiers qui ont été bloqués. Il y a aussi FO qui a bloqué le tunnel Saint-Charles, boulevard d'Athènes ce jeudi. Il y a aussi les dockers qui se sont mis en grève et tout un tas d'industries autour de Marseille. C'est difficile de faire le décompte parce qu'il y a énormément, énormément de choses. En tout cas, on s'est rendu jeudi au rassemblement parce que c'était pas une manifestation, parce que la plupart des gens, des manifestants étaient sur des blocages. Mais il y avait un rassemblement devant les terrasses du port à la Joliette. Alors ce qu'on appelle les terrasses du port, c'est un autre grand centre commercial qui vient tout juste d'ouvrir. Et donc on a décidé avec tout un tas de syndicats et tout un tas de personnes présentes de bloquer ces terrasses. Et on s'est rendu là-bas avec Tiffaine de Radio Galère pour aller rencontrer notamment des syndicalistes de Sud, comme à notre habitude, ça c'est plutôt facile, mais aussi des syndicalistes de la CGT, ce qui n'est pas forcément évident, puisque dans ces infos de Marseille, vous avez parlé notamment du service d'ordre de la CGT, qui a été plutôt violent et plus qu'incorrect avec une partie des manifestants, puisqu'ils ont joué les gros bras et n'ont pas hésité à gazer des jeunes non affiliés au syndicat et qui considéraient comme ne faisant pas partie du mouvement. Et donc on s'est dit qu'on allait quand même aller voir ces gens-là, puisque c'est des gens qui sont sur des blocages, des ouvriers, des ouvrières, des salariés, et que bien sûr la structure CGT n'est pas à confondre avec les gens du quotidien qui sont présents dans leurs usines et dans leurs entreprises et qui luttent, et qu'on voit bien qu'il y a plein de lignes qui sont en train de bouger à l'intérieur de cette grosse structure, même si bien sûr on n'y comprend pas tout et peut-être qu'il faudra du temps aussi pour décortiquer les choses. En tout cas, on est allé rencontrer ces gens mobilisés, c'était extrêmement intéressant. On a voulu les enregistrer, j'avais d'ailleurs mon enregistreur, mais il y a eu un problème technique. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, j'étais extrêmement déçu par la suite, parce qu'on va pas pouvoir entendre ces témoignages de personnes qui se sont prêtées au jeu de la radio et qui voulaient bien raconter ce qu'elles avaient vécu. Mais j'ai quand même décidé de les lire, donc voilà, c'est un peu moins, ça met un peu moins dans l'ambiance parce qu'il y avait le son de la manifestation derrière, etc. Mais je vais vous lire ces trois témoignages. Donc le premier témoignage, c'est une employée de la mairie de Vitrolles qui appartient à la CGT, qui était présente au blocage sur un rond-point ce jeudi. Donc elle dit, on avait rendez-vous avec toutes les UL c'est les unités locales de la CGT et du département. On a bloqué deux ronds-points, un sur la zone de l'Anjoli et un sur la zone des Escrocs Blancs, et on s'est partagé en deux groupes. Le barrage a été plutôt bien accueilli, des gens klaxonnaient sur l'autoroute pour nous soutenir. C'était un barrage filtrant, c'est-à-dire qu'on laissait passer un camion environ toutes les 5 minutes. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un transporteur indépendant, apparemment, puisqu'il n'y avait rien sur son camion, pas d'enseigne, il a forcé le barrage, mes camarades ont voulu s'interposer parce qu'il allait à vive allure, et c'était un rond-point où il y avait beaucoup de gens. Il a roulé sur la jambe d'une personne, ensuite le camion a continué d'avancer là où il voulait, il a poussé deux autres voitures, il a renversé la fille d'une camarade qui s'est retrouvée à terre avec la tête ensanglantée, et il lui a roulé sur le bras. Puis il a été arrêté par d'autres voitures plus loin, puis la police est arrivée. Les deux camarades sont à l'hôpital. Je sais qu'on va encore tout mettre sur le dos de la CGT, parce qu'on bloquait, mais c'est notre droit, le droit des salariés. Le gouvernement dit que nous sommes une minorité, mais il y a 75% des Français qui sont contre cette loi. Et il y a plein de gens qui disent qu'ils nous soutiennent et qui ne peuvent pas faire grève, parce que c'est compliqué dans les entreprises privées. Ils ne sont pas là sur le rond-point avec nous, mais ils nous soutiennent. Voilà, ça c'est le premier témoignage de cette dame de la mairie de Vitrolles. Et effectivement, dans les médias, on a parlé de cet accident, puisque cette personne avec son camion a foncé. Il y a effectivement une personne gravement blessée qui s'est fait rouler sur la jambe. Et on attend d'avoir plus de nouvelles. Pour l'instant, on n'en a pas plus. Ensuite, on a rencontré un employé de l'imprimerie de Vitrolles et qui appartient aussi à la CGT. Il nous dit... À l'appel de la CGT, on a arrêté l'impression des journaux. Les journaux ont refusé de publier une tribune du secrétaire général, Martinez, alors qu'on est privé de parole dans les journaux, à la télévision. Donc, on est rentré en grève. Le seul journal qui nous donne la parole pour expliquer le pourquoi du refus de cette loi, c'est l'Humanité, et qui a publié la tribune. Donc, c'est pourquoi nous avons publié ce journal. Le Figaro est le premier à titrer. La CGT veut mettre la France à genoux, mais c'est complètement faux, parce qu'on défend les intérêts des travailleurs. Mais la CGT mobilise, et c'est pour ça qu'on se met à dos le gouvernement, et qu'on a aussi la droite sur le dos en ce moment. Et même Libé. Libé, proche du Parti Socialiste, qui avec Geoffrin, donc Geoffrin c'est le directeur d'édition, dit « Je ne publie pas cette tribune parce qu'elle est contre la démocratie ». Mais ceux qui attaquent la démocratie, c'est quand même Valls, alors que 75% des Français sont contre cette loi. Et il insiste pour la faire passer. Alors qui expose la démocratie et la gauche? Pour la suite, je suis sûr que si on continue à mettre la pression, Valls va lâcher. Et si on continue ce bras de fer? Mais là, faut aller jusqu'au bout de la mobilisation. Et enfin, dernier témoignage, c'est un cheminot de Sudrail. C'est le même qu'on avait interviewé la semaine dernière, dont on avait entendu le témoignage. Suite aux deux manifestations de la semaine dernière qui a regroupé beaucoup de monde, la stratégie interprofessionnelle et unitaire entre la CGT et Solidaire, notamment, c'est de systématiser des blocages. En constatant qu'en face, on a un gouvernement qui reste droit dans ses bottes. Donc, il faut encore monter d'un cran. Il y a pas mal de secteurs qui appellent à la grève reconductible. Les plus emblématiques en ce moment, c'est dans la pétrochimie, mais aussi dans d'autres secteurs professionnels. Ce matin, donc c'était jeudi, hein, il y a eu un blocage dans la zone des docks par une centaine de personnes pendant près de 5 heures. On s'est mis en place à partir de 5 heures du matin, en bloquant systématiquement tous les camions qui sortaient des boîtes qui sont sur la zone. Au début, ça a été chaud, parce qu'il y avait du monde qui voulait travailler. Ensuite, essentiellement des salariés précaires qui sont en CDD, qui sont payés à la livraison. Il y a eu à peu près une demi-heure des discussions un peu tendues, mais ça a été très rapidement calmé. On avait un petit déjeuner, et beaucoup qui étaient bloqués ont finalement souscrit. Ce qui va jouer pour la suite, c'est la solidarité entre nous. À partir du 31 mai, je pense qu'il va y avoir un retour très massif, puisqu'à partir de 19h, la CGT Cheminot a appelé à une grève reconductible et a rejoint Sud sur ce que nous défendons depuis un certain temps, c'est-à-dire la grève reconductible, et probablement qu'on va être suivi par FO et peut-être par d'autres syndicats comme l'UNSA. Donc, après une première tentative qui n'est pas vraiment allé jusqu'au bout le 18 mai, le 31 mai, on va avoir de nouveau une grève massive à la SNCF. Pardon. Le rapport de force est lancé, il faut aller jusqu'au bout. La prochaine journée de mobilisation est annoncée le 14 juin, mais personne n'est satisfait de ce calendrier. Je pense que cette date a été lancée comme symbole pendant l'Euro de foot pour dire qu'on sera toujours mobilisable. Et pour continuer dans les interviews de personnes qui sont mobilisées, on va écouter cette fois une interview qui a marché et qui a été réalisée par Tiffen de Radio Galère pour les informations de 12h30 le vendredi sur Radio Galère. Et c'est un salarié d'Air France. C'est une personne de la CGT qui s'est mobilisée pour les 5 salariés d'Air France poursuivis pour violence en réunion suite, vous rappelez, à la chemise arrachée du DRH d'Air France et dont le procès a commencé à Bobigny hier matin. Et par solidarité, des manifestants à près d'un millier sont allés à l'aéroport de Marignane. On écoute ça tout de suite, entretien par téléphone.
Si vous voulez bien vous présenter.
Oui, alors je suis Fabien Cross et je suis le secrétaire du CCE de la branche raffinage chimie de Total et salarié de la MED.
Ok, raffinerie de la MED. Et donc mobilisé en ce moment, vous êtes en ce moment sur le blocage de l'aéroport de Marignane.
Voilà, en ce moment on est sur le blocage de la. Effectivement, on ne bloque pas, hein, on a fait un rassemblement devant l'aéroport et une prise de parole en soutien aux camarades qui passent en poussée. Pour l'histoire de la chemise. Là.
Et vos camarades d'Air France c'était l'hiver dernier. Okay,
voilà, en procès à Bobigny là, en ce moment.
C'est l'occasion de se mobiliser pour deux choses en même temps, contre la loi travail et en solidarité avec vos camarades. Comment est-ce que ça s'est passé là ce matin, l'action?
Très bien, énormément de monde, une très très forte mobilisation et très calmement. Hein. On est rentré dans le rôle national d'Air France, on a fait une prise de parole et maintenant on est devant l'aéroport. Hein. Très très bien, vraiment une foule impressionnante.
Ok, chouette. Et une foule qui rassemble uniquement des syndiqués CGT ou il y a d'autres?
Non, c'est toutes les forces progressistes de gauche et les syndicats. Donc j'ai vu Solidaire, j'ai vu le Parti de gauche, j'ai vu voilà, un peu. Entre autres, je n'arrive pas tous à les citer, mais non, ça ne rassemble pas que la CGT.
Vous êtes de la raffinerie de la MED, du coup, comment est-ce que ça se passe là sur la raffinerie?
Là, depuis, la situation est restée inchangée depuis vendredi dernier, 16h30, où on tombe rentré en grève. Donc, toujours pas d'expédition, ni par camion, ni par bateau, ni par pipe, ni par rail. Et voilà, donc une raffinerie au débit mini qui n'est pas à l'arrêt, mais au débit mini qui coule dans les bacs et aucun produit qui sort.
Ok, et du côté de la Vera, comment est-ce que ça se passe?
Alors la Vera chez Petroinos, eux, ils ont lancé les procédures d'arrêt et plus aucun produit qui sort depuis dimanche.
D'accord, super. Lundi dernier, on était sur le blocage à Fos, le blocage des sites pétroliers. Mardi matin, les barrages se sont fait déloger par la police.
Alors moi, j'étais avec des camarades de Total, on était sur le blocage effectivement du dépôt pétrolier de Fos. On s'est fait déloger dans une explosion de violence, sans sommation, à 4h du matin. On ne vient pas là pour faire la guerre, on vient là pour protéger nos emplois et défendre nos emplois. Donc se faire taper dessus à coups de gaz lacrymogène ou de canon à eau, ce n'est pas vraiment notre passion. Donc du coup, en réaction, hier, on a manifesté, on a fait une grande marche, une grande manifestation lors de la mobilisation nationale hier là, dans Poste. On a décidé d'un poste, donc en état professionnel, pareil. Et on est allé jusqu'à DPS. Okay. Donc on a fait un très grand rassemblement et dans un calme absolu.
Et il y a des blocages qui ont eu lieu également sur Fos hier et sur Vitrolles. Des personnes qui ont pris à partie les militants qui se trouvaient sur les barrages avec des incidents et des blessés. Ils sont dans quel état là maintenant? Qu'est-ce qui se passe?
Alors sur Vitrolles, les personnes, ça a été a priori que des blessures légères. Malheureusement, ils s'inquiètent beaucoup et nous pensons à notre camarade qui était sur le barrage de Fos et qui lui est grièvement touché, mais bon, après je ne sais pas plus, je vous l'ai dit, je vous donne juste les informations que j'ai. En attendant, nos pensées vont à lui et à ses proches, quoi. Ce n'est pas normal, mais ça c'est un peu aussi le problème de la police, hein, c'est-à-dire qu'ils ont souvent été là pour nous taper dessus, mais qu'il s'agit de gérer la circulation et de gérer le comportement de certaines personnes mal intentionnées, on ne les a pas trop vues. Donc s'ils avaient pu faire la circulation à ce moment-là sur le rond-point de Fos, je pense qu'on aurait évité beaucoup de problèmes et des incidents de ce type-là, quoi.
Oui, parce que là, ce qui s'est passé, c'est des automobilistes qui, du coup, ont foncé sur les barrages, quoi.
Exaspérés, peut-être, par le lavage qui est fait par la télévision tous les jours, ils ne comprennent pas forcément le combat, mais à qui nous, on est toujours dans le dialogue, donc on est toujours là pour discuter. Maintenant, on tombe sur des gens énervés, ça arrive, et malheureusement, c'est une action à gâcher sa propre vie et celle de la personne qu'on remercie. Donc voilà, il faut que tout le monde garde son calme, que ce soit raisonnable. C'est pas pour 20 minutes de retard dans un embouteillage que ça nécessite de... Et nous, on lutte pour nos conditions de travail et notre avenir, hein. C'est bien le gouvernement qui est dans l'impasse, c'est bien des personnes qui, très généralement, le gouvernement, ont rarement été en contact avec le monde du travail, qui essayent de nous imposer une loi qui est mortifère. Donc nous, on se bat pour notre survie et on ne se bat pas que pour la nôtre. Et s'ils comptaient bien, ils comprendraient qu'il y a plus de monde à la CGT que dans tous les partis politiques réunis, en termes d'adhérents. Et en plus, on a 70% de la population qui est d'accord avec nous. Donc il y a un moment où c'est le gouvernement qui refuse d'être dans le dialogue, qui refuse d'entendre le retrait de cette loi. Et nous, on ne fait que défendre notre outil de travail et nos conditions de travail.
Okay.
On aura toujours du mal avec les gens qui ne comprennent pas, mais en fait, on est là aussi pour expliquer notre combat. Et pour nous, il est plus que légitime, et en plus, c'est le combat du papa, vraiment. Je pense qu'on est vraiment de notre côté. Il y a plus de monde de notre côté que devant une bande de politiciens qui ne connaît pas grand-chose au monde du travail, quoi. Et qui veut nous imposer sa manière de voir capitaliste et surtout la manière de voir du MEDEF, quoi. Voilà.
Pour finir ce dossier sur le mouvement social, je voulais terminer sur deux points. Alors le premier point, c'est les questions de conflit dont il est question aussi dans cette interview, puisque la personne raconte très bien qu'il y a des frictions avec des automobilistes lors des barrages. On a vu aussi plein de frictions lors des manifestations avec des automobilistes, encore une fois pas contents, ou des gens tout simplement hostiles. Le jour jeudi où on a bloqué les terrasses du port, il y a aussi des personnes qui voulaient aller consommer au supermarché des terrasses du port et qui étaient vraiment pas contentes. En tout cas, effectivement, quand on est dans la rue, quand on est contre le gouvernement et ses décisions, c'est aussi prendre des risques, c'est aussi faire face à la pluralité des réalité, et je pense que c'est quelque chose d'important. Alors c'est dommage que ça arrive, mais il faut savoir en faire quelque chose, et que c'est une forme de culture démocratique, si je peux utiliser ce mot, c'est-à-dire d'apprendre à se parler, à s'écouter et à faire face aux difficultés et aux conflits qu'il peut y avoir avec les différentes personnes sur le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher les choses, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raison et qu'on n'est pas légitime de le faire, et en tout cas c'est important de le rappeler. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister un petit peu, c'est un peu, comment dire, c'est pas bateau, mais c'est un peu convenu de dire que les médias, quand même, ils sont vraiment pas de notre côté. Mais sérieusement, ils vont vraiment très très loin, et moi je suis toujours assez sidéré et assez étonné de leur capacité quand même à reléguer à la fois les paroles du gouvernement ou une autre tendance qui a particularisé en permanence les problèmes politiques. Par exemple, s'il y a des blocages d'essence, c'est parce qu'il y a un vrai conflit politique qui est en train de se jouer en France. Sur France Info, jeudi, c'était absolument génial. Du début de la matinée jusqu'au soir, on a eu toute une série de personnes qui étaient touchées par les pénuries d'essence et les pauvres pères de famille qui ne pouvaient pas prendre leur voiture pour aller nourrir leur famille au fin fond de la campagne, qui limite était en train de mourir de faim. Enfin voilà, tout un tas de choses sur lesquelles on est toutes et tous habitués d'entendre, suffit d'allumer France Info, mais c'est quand même assez terrible ce rapport au fait divers, alors qu'on n'est pas dans le fait divers, là on est dans le conflit social. C'est important de prendre du recul, mais bon, voilà, hein, on sait dans quel sens vont les médias. Sinon, comme je disais dans l'introduction, spéciale dédicace au point, hein, le point qui quand même accumule les offensives. Donc là, on sent qu'il y a aussi une presse décomplexée, c'est le mot à la mode en ce moment, qui est de plus en plus hostile au mouvement social. Donc là, encore une fois, je donnais des exemples de titres et là j'en donne d'autres. Donc c'est mobilisation contre la loi travail, que pèse vraiment la CGT en France? Le syndicat de Philippe Martinez est toujours le premier du pays, mais seuls 2,6% des salariés y détiennent leur carte. Donc là, on voit bien, une fois de plus, le discours de la minorité qui est remis en avance. Par contre, ils sont très contents, puisqu'il y a un autre article qui dit « Le syndicat, considéré comme réformiste, entre guillemets, estime que les salariés auraient beaucoup à perdre en cas de retour en arrière. Le retrait du texte serait inacceptable pour la CFDT. » Et oui, la CFDT qui, pour le coup, est aussi un syndicat décomplexé, puisque Laurent Berger, son leader d'organisation, nous dit « Il est hors de question que le gouvernement renonce à ses engagements, que ce soit en retirant la loi ou en la vidant de sa substance. Ce serait un coup dur pour les salariés car ils perdraient le bénéfice des nouveaux droits reconnus par le texte. » Et il dit qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la hiérarchie des normes et qu'elle ne touche ni au SMIC, ni au salaire, ni aux règles de sécurité. Et il dit ça sans sourciller. Quelle grosse blague. En tout cas, pour résumer la loi travail, c'est pas très compliqué, vous n'avez même pas besoin de le lire le texte. En fait, ça fait rentrer la précarité dans la loi, c'est-à-dire ce que les entreprises appellent la flexibilité. En gros, pour faire encore plus simple, l'entreprise fait quasiment ce qu'elle veut avec les salariés qu'elle embauche, alors qu'avant, elle était soumise à des règles générales à respecter. Tout simplement. Je voulais dire un peu deux mots sur Macron, mais je pense qu'on va pas avoir le temps. Et est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. En tout cas, il devait venir à Marseille aujourd'hui et finalement, il n'est pas venu. Mais il y a quand même 30 de ses adhérents, des marcheurs, puisqu'il entame une grande marche à travers la France, qui sont venus à Marseille. Mais les élus socialistes locaux sont assez hostiles à sa venue, donc il a prétexté que tous les policiers étaient déjà sur des blocages, donc il ne pouvait pas assurer sa sécurité. Bref, on va faire une petite pause musicale et puis on va passer à d'autres sujets.
As you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Et sans transition, on va écouter les nouvelles du Kurdistan au milieu de ces informations avant de revenir pour notre page culturelle sur Marseille.
Au Bakur, au Kurdistan du Nord, en Turquie, les bombardements de l'aviation turque sur la ville de Nusaybin se poursuivent depuis maintenant plus de 70 jours. Les forces spéciales utilisent des bombes de phosphore, considérées comme des gaz chimiques. Les quartiers de Martyr Glat et Alika subissent des attaques aux obusiers et aux armes lourdes. Deux jeunes Kurdes ont été tués. 9 officiers ont trouvé la mort à Nusaybik, Chernak et Slope. Et 7 autres à Wan, dans des affrontements avec les forces des HPG, les forces de défense du peuple. Dans la région de Julenmerg, ou Hakkari en turc, l'armée turque a attaqué le village de Bembo après que les habitants aient manifesté contre les affrontements dans la région. Les bombardements de l'aviation militaire turque, qui ont lieu près du mont Kandil, au Bashur, au Kurdistan du Sud, contre le PKK, touchent également les civils résidant dans les villages avoisinants. Les bombardements s'intensifiant, les résidents fuient les villages. À Sur, quartier central de Ahmet ou Diyarbakir en turc, les habitants s'apprêtent à revenir dans la ville après 5 mois d'affrontements et de destructions pour en constater les dégâts. Le 20 mai, l'Assemblée nationale de Turquie a voté la levée de l'immunité parlementaire de 138 députés. Cette levée facilite les poursuites judiciaires contre les députés. Sur 59 députés du HDP, Parti démocratique des peuples, siégeant à l'Assemblée nationale de Turquie, 53 sont concernés par ces poursuites. Une journaliste turque, Harzu Yildiz, a été condamnée à 1 an et 8 mois de prison par la justice pour son documentaire révélant le trafic d'armes qui a lieu entre la Turquie et l'État islamique. Parallèlement, un sommet humanitaire mondial s'est tenu à Istanbul les 23 et 24 mai derniers. Ce sommet s'est tenu non seulement sans la présence des ONG de défense des droits de l'homme turcs, mais, de son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a rencontré les coprésidents du HDP qui lui avaient sollicité une rencontre. Orojlat, Kurdistan de l'Est en Iran. L'État continue d'augmenter la présence militaire au Kurdistan et de placer des garnisons de gardiens de la révolution avec des blindés et des armes lourdes à proximité des villes, comme cela a été le cas cette semaine autour de la région stratégique de Jawara. La pression économique sur la région est toujours aussi grande et les mobilisations continuent. Les conducteurs de taxis de la ville de Piranchar manifestent contre les politiques locales du gouvernement qui les empêchent de pouvoir tirer des revenus décents de leur travail. Ces dernières semaines, des grèves similaires avaient soulevé plusieurs villes. Au Kurdistan d'Iran, beaucoup de personnes vivant proche de la frontière se sont retrouvées extrêmement paupérisées par les politiques de sous-développement programmées du gouvernement et se sont tournées vers le commerce transfrontalier en laissant passer à dos illégalement des marchandises de part et d'autre de la frontière entre l'Iran et l'Irak. Ces travailleurs sont couramment appelés les kolbars. Ils sont très régulièrement la cible des gardes-frontières qui n'hésitent pas à tirer à vue. Les autorités de la province de Kermanshah ont franchi une nouvelle étape en éditant une autorisation formelle de tirer sur les kolbars, légalisant ainsi aux yeux de tous une pratique déjà en cours. La raison donnée était que les kolbars agissaient contre les valeurs islamiques en important des marchandises haram telles que les produits de beauté ou l'alcool. Un important activiste pour les droits de l'homme au Kurdistan, Mohammad Sadiq Kaboudavand, emprisonné depuis 6 ans, a commencé une grève de la faim voici 15 jours afin de protester contre les agissements du système judiciaire contre lui. La situation carcérale pour les prisonniers politiques est très mauvaise. Les derniers reports pris d'informations internes à la prison avaient décrit son état de santé comme très mauvais. Les maladies et les mauvais de traitement affaiblissant chaque jour face à une grève de la faim, beaucoup craignent pour ses jours. Le décès de Ismail Ilkhanizada, ce 22 mai 2016, à l'âge de 110 ans, vient nous rappeler un épisode central de l'histoire kurde. Il était le dernier survivant du gouvernement de la République indépendante de Mahabad, première expérience d'indépendance kurde au XXe siècle. Celle-ci avait été proclamée le 22 janvier 1946 sur la place principale de la ville du même nom, Mahabad, Orojelat, par son président Qazi Muhammad. Malheureusement, une violente offensive de l'armée iranienne mettra fin à cette tentative quelques mois plus tard avec la complicité de l'URSS.
C'était les nouvelles du Kurdistan. D'habitude, on les passe à la fin des informations, mais vu que c'est un peu dur, j'avais envie de finir avec une note positive. Et cette fois, je suis allé rencontrer le collectif des Scotcheuses, collectif de cinéma autogéré, et notamment autour de leurs films qu'ils ont fait à la ZAD, donc la zone à défendre sur le projet d'aéroport. On écoute ça tout de suite. Alors, on est à Manifeston ce soir, samedi, parce que vous organisez un événement dont vous allez nous parler. Donc, Manifeston au 59 rue Thiers, dans le 1er arrondissement à Marseille. Et vous êtes un collectif qui s'appelle Les Scotcheuses, avec Nadia, Elam et Lo. Donc, je vais vous laisser présenter derrière ce nom obscur qu'est Les Scotcheuses. J'imagine que vous n'êtes pas une start-up de vente de sparadrap.
Ben si.
Alors c'est quoi Les Scotcheuses ?
Les Scotcheuses, c'est un collectif de films en Super 8 qui essaye de faire des films, on va dire, militants, mais dans une forme plutôt expérimentale ou de fiction, et en essayant de s'inscrire à des endroits de lutte pour faire des traces, pour créer de l'énergie. Et on est un peu partout en France. Donc la spécificité, c'est de les faire en Super 8 à notre époque du numérique où il faut beaucoup d'images pour faire un film. Là, on tourne pas beaucoup. Souvent, on développe nous-mêmes quand on peut. On coupe au ciseau et on scotche. Et puis et après, on le partage. Des fois sous forme de ciné-concert. Des fois, on en fait un DVD pour qu'il puisse tourner dans plein d'autres lieux.
Après, ce que je peux dire, c'est que la spécificité, c'est qu'on est assez nombreux et nombreuses. On est entre 15 et 30, on va dire. Et du coup, on arrive sur des territoires en lutte et on fait pas que du cinéma, quoi. On vient sur une durée assez longue. On fait des, par exemple, à la Notre-Dame-des-Landes, on fait des chantiers, on participe à la vie collective, on amène ce qu'on peut amener et ce qu'on peut apporter sur le territoire, quoi. Et du coup, on participe à un espèce de mouvement commun et de faire ensemble, avec aussi la spécificité de l'envie de faire de la transmission de savoir, c'est-à-dire de que c'est pas ceux et celles qui connaissent le cinéma qui font les choses, mais tout de suite on arrive, on fait des ateliers et on se transmet autant la musique que le cinéma, que faire à manger, que conduire des voitures, des tracteurs, que du coup c'est vraiment essayer de faire de l'échange et que tout le monde peut apprendre et s'approprier en fait ses propres savoirs, quoi.
Alors moi j'ai une question technique pour le coup pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas le Super 8. Qu'est-ce que le Super 8 en différence avec le numérique et comment vous fonctionnez au moment où vous montez les films? Parce que ça, s'il y a une démarche aussi technique particulière.
Le Super 8 c'est un format qui était je crois qui est arrivé dans les années 60 et qui à la base était inscrit pour faire des films amateurs, donc de nombreuses familles avaient ça. C'est très très simple à utiliser et c'est ce qui est intéressant dans ce support parce qu'il est il est assez aisé à transmettre et puis même quand on fait des ratés l'image est très peut être très belle, le raté fait partie du geste. Et donc quand on monte, c'est ça, c'est qu'on développe une bande comme la photo argentique. Après, avec différents bains, et ensuite on la coupe au ciseau, on la colle. Et après, la question de le monter, c'est la question du collectif, elle se pose comme sur un support numérique. C'est après, nous, on s'organise pour créer des modalités de décision, des formes de choix qui essayent d'être le plus collectif, sachant qu'il y a un choix à faire, et donc ce qui fait que l'expérience de montage est souvent compliquée. Mais voilà, moi. Un peu ce que serait le Super 8, qui existe de moins en moins, qui est en train de disparaître depuis 15 ans, puisqu'on est à l'époque du numérique. Et donc la pellicule devient obsolète, quoi. Mais elle existe encore. Il y a quelques petits groupes résistants qui en font. Par exemple, sur la ZAD, on a fait deux films différents. Le premier, c'était un film où on voulait vraiment se rencontrer, parce que sur les 20... On se connaissait très peu et on voulait aussi tous y participer. On vient de partout, Nantes, Marseille, Paris, Bruxelles, Montréal. Et donc on a fait un film comme une forme de pot commun où sur une sorte de ligne narrative, chacun allait cueillir des images et des sons. Et après on l'a monté dans une forme d'effervescence, sachant qu'il est plutôt d'une forme expérimentale, donc la narration n'est pas très importante. Et là on l'a projeté en forme de ciné-concert et c'est ce qu'on va faire ce soir.
Et du coup ça a été... plusieurs moments assez denses et assez intéressants, autant l'arrivée sur les territoires, de comprendre en fait qu'est-ce qui est vraiment en jeu, qu'est-ce qui joue politiquement, de nous aussi, de faire les tournages, les moments d'écriture, les moments de commun en fait, qui de production qui se font, et aussi toute la période de diffusion. Là, ça fait un an qu'on n'a plus fait de film et qu'on est juste, qu'on est sur des moments d'aller dans différentes villes, de diffuser. Sur un des films, on fait un ciné-concert. Et du coup, à chaque fois, d'arriver dans un lieu, de voir avec les musiciens et les musiciennes. C'est un moment à chaque fois particulier. C'est pas refaire exactement la même chose. C'est aller dans des lieux intéressants et de.
Comme on est très nombreux et nombreuses dans ce collectif, en général, on travaille par session très intense d'une semaine ou deux. Donc ça, c'est aussi des techniques de travail assez singulières, puisqu'on se retrouve sur un lieu soit pour travailler l'écriture d'un film en route ou futur, ou bien pour travailler le montage, ou aussi pour faire la musique du film. Donc, ce qui fait que c'est des moments où on s'ancre vraiment quelque part. Alors, pas forcément sur le territoire où on a fait le film, mais aussi dans des lieux amis qui nous accueillent pour travailler intensément et aussi participer à la vie du lieu, comme ça nous est arrivé à côté de Dijon, dans la baraque d'un ami qui nous a accueillis. Et on a fait des sessions à la ZAD. Et on essaye, pour parler plus de la diffusion, on essaye quand on projette les films de créer aussi tout un événement autour des projections, de pas, enfin de s'approprier aussi tout ce qui entoure la projection, c'est-à-dire créer un débat autour des questions politiques soulevées par le film, faire à manger, discuter de tout le processus, inviter aussi des personnes à nous rejoindre. Parce qu'on est un collectif très mouvant, très hétérogène et on est très, très ouvert aux nouvelles énergies.
Énergie renouvelable. Alors, il parle de quoi ce film que vous allez diffuser ? Et c'est quoi un ciné-concert ?
Donc là, en fait, ça se passe à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc un territoire en lutte depuis très longtemps contre la construction d'un aéroport qui devait se passer donc à côté de Nantes, mais qui va bien au-delà que la construction même de cet aéroport et contre on va dire un système plus général capitaliste libéral oppresseur, et aussi on va dire pour la construction aussi d'autres formes de vie. C'est à la fois envie de détruire un certain système politique et à la fois la création de nouvelles formes de vie dont les gens seraient appropriés aussi.
En fait, on a été invités à Manifesten par le collectif Jeff Clack, qui est une revue qui existe depuis un peu plus d'un an, je crois. Parce que dans cette revue, ils ont créé un western sonore qui va être diffusé ce soir. Et donc, on nous a invités parce que nous aussi, on a fait un western donc à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Qu'on a appelé No Western, qui est une fiction qui se passe donc sur le territoire de la ZAD. Et avant de faire ce film qui s'appelle No Western, on avait fait donc un film expérimental qu'on a appelé Sème ton Western, avec plus des sortes de petites scénettes qui s'enchaînent sans narration très fixe, mais où on a pu expérimenter plein de formes de façon de filmer. Il y a de l'animation dedans, et c'est sur ce film-là qu'on fait un ciné-concert, c'est-à-dire qu'on joue sur le film en direct, sur certains bouts du film qu'on a décidé de sonoriser en direct. Et donc ce soir, il y aura de la voix, il y aura de la guitare, du hautbois et du saxophone et aussi de la batterie. Voilà. Et qui sait, peut-être des surprises.
On a fait un livret DVD de ces deux films à la ZAD qu'on a fait avec beaucoup de récup, qu'on a tout fait nous-mêmes, il y en a 1000 exemplaires. C'est comme ça aussi voilà qu'on se finance. Oui, c'est beaucoup de récup, un minimum d'achat et donc on a fait ça, et aussi c'était pour parler des prochains films, parce qu'on repart sur des prochains films, dont un qui est déjà en route, qui se situe autour de Bure, sur le nucléaire, et puis un autre qui n'est pas encore en route, mais qui serait aussi sur les questions de les problématiques liées à la migration, aux frontières, à ce blocus qu'on est en train de construire. Voilà.
Je voulais juste ajouter qu'à Bure, on avait un peu aussi envie de faire ce qu'on a fait à la ZAD, c'est-à-dire de s'ancrer un peu dans une lutte spécifique liée à un territoire. En l'occurrence, c'est la lutte contre la création d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Et il y a des personnes du collectif des scotcheuses qui ont déjà pas mal bossé la question en amont, qui sont allées souvent et qui ont des contacts là-bas. Et les personnes de là-bas ont envie de nous accueillir et de faire ce film avec nous aussi. Parce qu'on a un peu oublié de dire qu'on est un collectif qui invitons aussi les personnes qu'on rencontre sur les lieux de lutte à nous rejoindre et à travailler avec nous. Et c'est pour ça que le No Western a été possible. Il y a plein de figurants et figurantes, de personnes qui ont filé des coups de main et même qui ont intégré le collectif parce que ça leur a vachement plu. C'est aussi un film qui a été très très bien reçu à la ZAD elle-même et ça nous a donné envie de recommencer dans un même type de lutte ancrée sur un territoire.
J'ai commencé par ça au début, mais alors scotcheuse, ça veut dire quoi ?
C'est la machine qu'on utilise pour scotcher les deux bandes quand on fait du montage, quand on veut mettre un plan après l'autre, un plan Super 8, on a une machine qui s'appelle scotcheuse.
Et on est super contente que ça soit un mot féminin. Ouais.
Et si on est intéressé par vos projets, comment on peut vous contacter ?
scotcheuse@riseup.com. scoutchese.net.
Alors, S-C-O-T-C-H-E-U-S-E. @riseup.net.
Bah merci.
Merci à toi. Merci à toi. Et venez nombreuses voir nos films.
Pour voir quoi mais...
Comme vous venez de l'entendre dans cette interview, c'est tout de suite maintenant la projection à partir de 19h30 au local de Manifesten. Mais vous pouvez y aller pour 20h, il n'y a pas de souci. Donc éteignez votre radio dans 5 minutes à la fin de ces informations et venez nous rejoindre. Et il y a un bonus spécial à cette interview qu'on écoute tout de suite.
De Manifesten, ça s'est organisé en... aujourd'hui, juste avant l'interview. Vous avez peut-être une autre ambition.
Oui, une autre ambition qu'on vient de décider, peut-être, c'est de jouer en plein air un concert avec les scotcheuses, parce qu'on a monté une petite formation musicale pour ajouter un peu de piment à nos soirées de projection. Et cette formation s'appelle la Boom Acoustique, qui n'a rien d'acoustique en fait, parce qu'elle est sonorisée. Mais l'idée, c'est de prendre un peu, de reprendre des tubes de fête, de boom qu'on a l'habitude de faire, mais sur la scène avec des instruments. Et donc si on y arrive, on fait un concert sur la plaine demain après-midi, dimanche après-midi.
Super.
Et c'est la fin de ces informations en direct sur Radio Zinzine ainsi que sur BAM Radio. Et on se retrouve la semaine prochaine en direct de Marseille. Pour les gens qui nous écoutent en direct, c'est l'heure du blues suivi de Kilowatt FM. Et les informations sont rediffusées cette nuit à minuit et demain matin à 7h. Bonne soirée sur les ondes de Radio Zinzine.
Cause for worry, and I've not got a lot to say. You'll never find me in a hurry, because I live my life day by day.
People say that I'm crazy, but I'm not that way inclined. I know what I know, and I'll happily show that this is all.
24 hours is all that I care for. I believe that's the only way. 24 hours is all that I needed, because I live my life day by day.